Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et pour commencer cette émission, nous accueillons Maëvan au 3921. Bonsoir Maëvan.
Bonsoir Olivier.
Bonsoir, quel âge avez-vous Maëvan ?
J'ai 29 ans, je vais avoir 30 ans à la fin de cette année.
D'accord, très bien. Qu'est-ce qui vous amène, dites-moi ?
Je viens vous parler d'amnésie traumatique.
Oui.
Un sujet un peu brûlant et j'aimerais bien que ce feu ne s'éteigne pas parce que je trouve que c'est un sujet très important et j'aimerais bien contribuer modestement à faire avancer la loi.
Alors, vous savez que nous l'avons évoqué hier soir dans l'émission. D'accord, ok. Parce que nous avons eu un témoignage hier où nous évoquions déjà cette amnésie traumatique qui est quelque chose dont il faut parler parce que c'est vrai que c'est difficile à... je le vois, hein, chaque fois que j'évoque cette amnésie traumatique, il y a un certain scepticisme, vous le savez, de la part des gens qui écoutent. Alors, dites-moi, vous, il vous est arrivé quelque chose, je crois.
Oui, moi j'ai été violée à l'âge de 4 ans par mon grand-père.
D'accord, votre grand-père.
Et pendant 24 ans, pardon, j'ai subi une amnésie traumatique. Partielle, c'est-à-dire que j'avais un mal-être, parfois des sortes de flashs, voilà, c'est sans cesse au bord de ma conscience, mais je me suis réellement souvenue consciemment des faits il y a seulement un an et demi.
D'accord, et lorsque vous dites que partiellement, vous aviez un ressenti, un malaise par rapport à ce grand-père ?
Oui, tout à fait. Pas directement par rapport à ce grand-père, parce qu'en fait, il est décédé très peu de temps après les faits, après m'avoir violée. Oui, parfois, effectivement, quand je passais devant une photo, ce genre de choses, j'avais effectivement un malaise, mais c'est plutôt un mal-être que je traîne depuis l'enfance et que je ne m'expliquais pas réellement. Mais il y a eu certains moments dans ma vie où, en fait, ces blessures se sont un peu réveillées à des moments de vulnérabilité. Par exemple, quand j'avais 11 ans, j'étais un peu harcelée à l'école. Oui. Et en fait, ça a réveillé un peu cette blessure initiale, on va dire. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à ne pas très bien aller, à être très angoissée, avoir du mal à dormir, etc. Donc, mes parents se sont un peu inquiétés. Je suis allée consulter un pédopsychiatre à l'époque. Après l'avoir vu quelques séances, il en a déduit que j'avais été traumatisée par la mort de mon grand-père, parce que je pense que je n'ai rien laissé passer. J'avais déjà conscience à cette époque-là de devoir cacher quelque chose pour protéger ma famille, en fait, pour ne pas que j'avais cette conscience que des membres de ma famille risquaient peut-être la prison, ce genre de choses, mais sans forcément réussir à mettre de mots dessus.
Oui.
Ensuite, vers la vingtaine, j'ai rencontré des problèmes dans ma sexualité parce que ça engendrait forcément quelques blocages du vaginisme.
Oui, oui.
À un moment donné, disons que ça s'est débloqué. Enfin, ma vie sexuelle s'est un petit peu améliorée et à ce moment-là, en fait, ça a entraîné le début de cette année de dépression avec des dépressions à répétition avec plus ou moins d'intensité que j'arrivais plus ou moins à gérer grâce à un traitement antidépresseur. Mais pendant toutes ces années, en fait, j'étais dans un profond mal-être sans vraiment pouvoir savoir ce qui se passait, pourquoi j'étais si mal, en fait. C'était à certains moments, j'avais comme des flashs, mais en fait, c'est comme si mon cerveau faisait constamment des efforts pour refouler, en fait. C'était trop... trop douloureux, trop dangereux. À cette époque-là, en fait, je pense que j'étais pas encore prête à me souvenir en quelque sorte et à affronter cette réalité-là.
Vous n'aviez aucune idée qu'il ait pu se passer quelque chose lors de votre petite enfance. Dans quelles circonstances votre grand-père a-t-il pu faire ça, en fait ?
J'étais en vacances donc chez mes grands-parents. C'était les vacances scolaires. J'étais là-bas, donc mes parents n'étaient pas présents.
Oui.
Et à un moment donné, pendant cette semaine-là, il y a eu plusieurs viols, mais à un moment donné, je me suis retrouvée avec mon grand-père et une autre personne de ma famille, dont je préfère pas évoquer trop de choses parce que je voilà, il y a une procédure judiciaire en cours et je préfère me limiter à ça. Mais en tout cas, voilà, mon grand-père a prétexté, enfin, a utilisé le fait que j'avais la varicelle à ce moment-là. Je venais de déclarer la varicelle pour pouvoir m'appliquer de la crème, en fait. Et en fait, il a profité de ce prétexte-là pour me violer, en fait. Voilà.
D'accord. C'est tout de même hallucinant de enfin bon, à chaque fois que j'entends parler de ça, c'est vous comprenez combien c'est l'effroi total lorsqu'un grand-père ose faire ça, ou un frère, ou un père. Ce malaise a donc duré presque 24 ans, c'est ça, 23 ans.
Oui, c'est ça. En quelque sorte, ça s'est allé en s'empirant parce qu'en fait. Moins je comprenais, plus je me dénigrais. En fait, je me disais, mais comment c'est possible que tu ailles si mal alors que tout le monde me répétait que j'avais tout pour être heureuse? Parce que je pense que je me suis un peu réfugiée dans les études. Donc, en fait, j'étais excellente à l'école. Et puis, je maintenais un peu les apparences. J'étais assez souriante, etc. Et donc, en même temps, quand cette dépression s'est déclarée, mon entourage est un peu tombé des nues en se disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis moi-même, j'arrivais pas à me l'expliquer, quoi. Et pourtant, j'ai quand même essayé de... Enfin, maintenant, avec le recul, je me dis « mais il y avait quand même des signes qui auraient pu être décelés par des professionnels mieux formés, dans la mesure où, par exemple, à la vingtaine, quand j'ai commencé à consulter donc une psychologue, moi, je lui ai parlé d'inceste. Mais à l'époque, je lui ai pas parlé de moi. Je lui ai dit que je savais pas pourquoi, mais que j'étais persuadée que ma mère l'avait vécu, en fait. » Que ma mère avait subi l'inceste. Et cette psy m'a gentiment envoyé balader en me disant que de toute façon, il fallait que je me concentre sur moi. Mais elle n'a pas du tout cherché à creuser plus, à savoir pourquoi je lui parlais de ça, d'où ça venait. Enfin, voilà. Et pareil, dans l'enfance, quand j'avais 11 ans, j'ai quand même... mon père avait écrit un courrier au psychologue pour lui expliquer un peu... mes stress et les mots qui revenaient dans ce que je lui disais. J'avais des questions quand même assez explicites du genre a-t-on le droit de coucher avec son père, enfin des choses qui je pense pourraient mettre la puce à l'oreille d'un psychologue mieux formé. En tout cas, c'est aussi pour ça que je témoigne, c'est pour dire que je pense qu'à l'avenir ce genre de choses et de souffrances accumulées et inutile pourrait être évité, en tout cas dans certains cas, et c'est pour
évidemment.
Ça que je témoigne.
Bien évidemment, et lorsqu'un enfant subit ce genre de malaise, en tout cas fait preuve d'un certain mal-être, il faut l'écouter et au moins chercher plutôt que de se dire ça va passer, parce que c'est souvent ça en fait. On se dit bon, c'est l'âge, c'est pour tout un tas de raisons, il y a des parents qui ne veulent pas voir plus loin que le bout de leur nez, mais lorsqu'il y a un malaise comme celui que vous viviez, ça aurait été bien qu'on pousse un petit peu plus loin. C'était du côté de votre père ou de votre mère, ce grand-père?
Non, de ma mère.
De votre mère.
De ma mère. Mais pour autant, c'est là que je me dis que la formation des professionnels doit vraiment intervenir. C'est que mes parents ont quand même eu la vigilance de m'envoyer voir un psy assez jeune, et c'était des parents vraiment, enfin ce sont toujours d'ailleurs des parents aimants, prévenants, et donc en fait malgré ça et malgré le fait que je me sois quand même tournée vers des professionnels à plusieurs reprises, en fait personne n'a jamais vraiment compris ce que j'avais. Alors certes, ça venait aussi de ma difficulté à dire les choses, parce que forcément j'étais sidérée et pas forcément consciente pendant toute une partie de ma vie. Mais je me dis que justement, en fait, il y a des symptômes qui devraient, avec une meilleure formation, mettre la puce à l'oreille des thérapeutes, des médecins, des professionnels de la santé, en fait.
Mmh. J'ai tourné il n'y a pas longtemps avec une femme qui avait 55-56 ans et qui avait suivi une thérapie avec Catherine Dolto, donc la fille de Françoise Dolto. C'est Françoise, c'est ça. Et une thérapie par le toucher, en fait. Cette amnésie, donc, est partie tout à coup par le biais de cette thérapie, en fait. Et alors, elle disait que c'était en sortant d'une séance, qu'en ouvrant la porte de son hall, tout lui avait comme explosé dans sa tête, tout avait explosé, et comme elle disait que c'était comme si c'était un disque qui se régénérait, un disque d'ordinateur.
Ouais.
Est-ce que vous, ça a été la même sensation?
Ouais, c'est complètement ça en fait. Je pense que en fait, c'est à la fois la levée d'amnésie, elle a été progressive et en même temps assez subite parce que je dis qu'elle a été progressive dans la mesure où elle a été préparée par toutes ces années de thérapie où je pense que petit à petit je me suis renforcée psychologiquement pour être capable d'affronter ça. Mais c'est vrai que le moment où l'image revient. C'est tout à fait ça. Je sais qu'on parle parfois aussi de boîte noire, mais c'est vraiment ça, en fait. Donc moi, j'ai vu la scène du dessus parce que donc j'ai appris après que ça arrivait fréquemment, surtout quand on a vécu ce genre de violence très jeune. Mmh. En fait, on fait une sorte de sortie de corps, je ne sais pas trop comment le dire autrement, et parce qu'en fait, c'est tellement violent qu'on se dissocie. Et donc, en fait, moi, là, la scène, je la vois vue du dessus. Donc, c'est-à-dire que je la vois vraiment comme avec autant quelle de horreur. Détails et de précision qu'un film, en fait. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ce qui me permet à la fois, c'est terrible parce que, évidemment, c'est pas le genre de chose qui fait plaisir à se remémorer. Mais en tout cas, ça me permet aussi d'avoir des détails très précis qui m'aide à me croire et à me dire que ce que j'ai vécu est bien réel, parce que c'est ça qui est aussi la grande difficulté, je pense, quand on a vécu ça et que l'amnésie se lève, c'est qu'on se dit mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'avoir oublié? Comment c'est possible? Parce que moi, en fait, après, pendant 24 ans, j'étais en contact avec des membres de ma famille, dont un membre qui était complice et témoin de ça. Et en fait,
complice.
Oui.
Complice. En fait, donc il y a un complice.
Oui. Et c'est ça qui est complice, très difficile.
Je me doute. Et le complice, vous l'appelez complice parce qu'il l'a laissé faire ou est-ce qu'il était là dans la pièce? Est-ce qu'il était présent quand tout ça s'est passé?
Oui, présent. Mmh.
Et lui n'a pas abusé de vous?
Non.
D'accord.
D'accord. Mais c'est en fait c'est assez terrible parce que en fait comment expliquer ça, c'est une double trahison quelque part parce qu'il y a cette trahison initiale forcément de des membres de votre famille qui sont censés vous protéger et vous aimer et qui abusent de vous et de leur statut d'adulte pour abuser de vous en fait et en plus de ça en fait je me suis dit mais pendant toutes ces années où j'allais si mal. Et ça allait très loin, parce que j'ai été hospitalisée 3 mois, j'ai fait une tentative de suicide, donc ça a été très difficile. Et en fait, et je me suis dit, mais en fait, jamais cette personne n'a trouvé le courage de se dénoncer ou de témoigner ou de dire, il s'est passé ça et peut-être que ça explique ce mal-être psychologique. Et c'est ça que je trouve aussi terriblement injuste, c'est que parfois, en fait, ce mal-être psychologique... Il peut même être utilisé en fait des agresseurs ou des personnes qui vont dire non mais de toute façon vous n'allez pas croire cette personne, vous voyez bien que elle a été hospitalisée, vous voyez bien qu'elle est vulnérable, qu'elle est pas, elle a pas toute sa tête. Enfin, je sais que ça revient très souvent et je trouve que c'est vraiment terrible et c'est rajouter de l'injustice à l'injustice et de la souffrance à la souffrance et c'est aussi pour dire stop à tout ça que je témoigne parce que c'est vrai que cette impunité, elle est terrible en fait. Elle est très difficile à vivre et en fait, je suis vraiment tombée des nues quand j'ai enfin trouvé la force de vouloir porter plainte. Donc il y a assez peu de temps finalement, je suis tombée des nues de voir à quel point la justice française et la police française étaient quelque part, je sais pas si c'est en retard le mot, mais en tout cas à quel point il y avait encore beaucoup d'injustices. Et moi par exemple. Quand j'ai voulu porter plainte, je suis allée dans un premier commissariat où le policier a refusé de prendre ma plainte. Il a pris une main courante. J'étais au courant que ça pouvait arriver, ce genre de choses. Donc, j'ai vraiment insisté, quoi. J'ai dit non, mais moi, c'est une plainte que je viens déposer. Ça n'est pas une main courante. Et en fait, la personne m'a répondu que non, la procédure, c'était comme ça. Qu'ensuite, c'était la brigade des mineurs qui allait me rappeler, etc. Sauf que 3 mois se sont passés, que je n'avais toujours aucune nouvelle, que quand j'appelais... j'avais pas de nouvelles et que j'ai appelé différentes brigades des mineurs qui étaient sans nouvelles de mon dossier. Donc, je me suis dit que j'avais fait tout ça pour rien, alors que c'était déjà très éprouvant de témoigner de ça et de trouver le courage de se dire qu'on va porter plainte contre quelqu'un de sa famille. Donc, 3 mois plus tard, rebelote. Mais cette fois-ci, heureusement, je suis tombée sur une policière très bienveillante, très à l'écoute. Et j'ai enfin pu trouver l'écoute et le soutien que j'espérais tant.
J'aimerais que nous nous attardions sur cette personne qui donc fait l'objet d'une procédure judiciaire. Quelle était sa motivation première pour cacher ça et visiblement appuyer un peu plus, puisque vous nous dites qu'elle a essayé de vous discréditer, cette personne?
Non, c'est pas elle directement qui a essayé de me discréditer, c'est une autre personne de la famille. Et je pense que, je ne sais pas, je ne vais pas m'exprimer à la place de personne, mais en tout cas... J'imagine que c'est par peur que la vérité soit crue, entendue, peut-être par culpabilité. J'imagine plein de processus psychiques possibles. J'ose espérer que en fait il y a quand même cette humanité, parce que c'est quelque chose qui est très difficile à imaginer pour moi, que quelqu'un puisse être complètement insensible, mais bon, je sais que c'est possible aussi, mais bon, voilà. Enfin, là, j'avoue que je ne sais pas pourquoi, je n'ai que des hypothèses.
Souvent, en fait, les personnes qui prennent position dans ce genre de cas, c'est pour protéger l'honneur de la famille. Hein.
Oui.
Il y a beaucoup d'actes comme ça, hein, d'agressions sexuelles, d'attouchements. Dans des familles qui veulent absolument que tout cela reste secret, hein, et pour que justement la honte n'arrive pas sur la famille, et c'est malheureusement la motivation première, hein, souvent, et j'ai vu souvent des personnes le faire avec une certaine hargne, vraiment jusqu'à faire culpabiliser les victimes. C'est-à-dire les parents de la petite victime. Parce que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit.
Mais c'est ça, et c'est ce que j'ai découvert aussi en témoignant et en parlant autour de moi, c'est à quel point c'est répandu et à quel point ça touche, on le sait déjà, mais tous les milieux, beaucoup de personnes. Et en fait, on a beau le dire, l'entendre, sortir les statistiques, etc., en fait, c'est difficile à entendre, je pense, et je peux le comprendre. C'est tellement violent, c'est tellement désagréable de se dire que potentiellement il y a des dangers partout, et que, enfin voilà, je peux tout à fait entendre que ce n'est pas un sujet facile et ni léger. Mais en fait, ce que je voulais vraiment dire aussi, c'est que justement cette culpabilité et cette honte dont vous parlez, dont certaines familles veulent se débarrasser comme ça, en fait, elle disparaît pas simplement, elle est portée par la personne qui est victime de ça. Et c'est-à-dire que c'est un poids, un fardeau qu'on porte sur ses épaules. Et c'est ce fardeau dont je veux me libérer aujourd'hui, parce que j'ai envie d'avancer dans ma vie, j'ai des projets. Et en fait, tant que cette culpabilité n'est pas attribuée d'une manière ou d'une autre, qu'il n'y a pas la justice pour dire c'était de sa faute et ça n'était pas de la tienne, ou ça ne t'appartient pas, tu n'es pas responsable, et en fait c'est à nous victimes de faire ce travail colossal de psychologique, thérapeutique, qu'on paie d'ailleurs de notre propre poche, et pour enfin se sentir légitime et se dire je le méritais pas, c'était pas de ma faute, c'est des membres de ma famille, mais ça ne déteint pas sur moi en quelque sorte. Enfin, c'est vrai que c'est tout un travail.
C'est tout un travail. Et lorsque vos parents ont appris cela, comment ont-ils réagi? Parce que c'est très important d'avoir le support de vos parents. Vous m'avez dit que vos parents avaient été très, très présents, très aimants. Ils vous ont cru tout de suite?
Oui. Alors après, il y a eu des différentes phases, on va dire. En fait, au départ, ils ont été assez sidérés, quoi. Vraiment, je pense que le ciel leur est tombé sur la tête, parce qu'en plus, comme... je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai toujours essayé de préserver mes parents, de vraiment minimiser en fait mon mal-être. Donc c'est vrai que bon, au bout d'un moment, je pense que c'était trop pour moi et que bon, j'ai vraiment craqué psychologiquement, etc. Je vous l'ai dit, j'ai fait une tentative de suicide, donc je pense qu'ils se sont bien rendus compte de l'étendue de ma souffrance.
De la gravité,
c'est vrai que, oui, c'est ça. Mais avant ça, c'est vrai que j'avais toujours cette volonté de préserver mes parents, de pas faire de vagues, d'être voilà, j'avais une, comment dire, une éducation assez avec oui, des valeurs, et puis j'étais la première de la classe tout le temps. J'avais un peu cette j'ai un peu compensé cette faible estime de moi-même par une sorte de compétitivité avec moi-même. En tout cas, j'étais un peu voilà, dans cette excellence, etc. Donc c'est vrai qu'en fait je comprends aussi qu'il n'ait rien vu, dans la mesure où j'ai aussi fait beaucoup d'efforts pour ne rien laisser paraître pendant tout un moment. Et donc leur réaction, ben, ils ont été assez sidérés. Après, ils m'ont dit qu'ils me croyaient, mais c'est vrai qu'ils étaient, je pense qu'ils avaient beaucoup, beaucoup de mal à entendre la violence de ce qui m'était arrivé. Et puis, bah, forcément, c'est dans la famille, donc ça remet tout en question. En fait, c'est une trahison extrême, un abus de confiance, parce qu'ils avaient confié leurs enfants... en pensant que tout irait bien, et en fait ils se sont rendu compte que c'était ça l'origine de mon mal-être, et c'était assez terrible. C'est vrai que bah, mes parents m'ont demandé, mais quand même, malgré tout, mais est-ce que t'es sûre, parce que ce sont des accusations qui sont quand même graves. Donc il y a quand même eu ça, parce que sur le moment, j'ai quand même été pendant un an très en colère, je vous l'avoue, parce que j'avais l'impression de pas vraiment être entendue, même si j'ai bien conscience que j'ai quand même la chance d'avoir des parents qui m'ont cru, qui ne m'ont pas rejetée, parce que je sais que ça arrive malheureusement plus souvent qu'on ne le pense.
Ça arrive, bien sûr.
Donc voilà, j'ai quand même eu cette chance d'avoir ce soutien, et mais il y a eu des allers-retours, disons. Ça s'est pas fait sans heurts et sans crise de colère de ma part, et de vraiment... Enfin, je pense que j'ai un peu... explosé, mais tant mieux, parce qu'en fait, avant ça, j'implosais. Donc, quelque part, il fallait que ça sorte, même si c'est sorti d'une manière un peu sauvage, on va dire. Mais au moins, j'ai pu dire les choses, et puis petit à petit, m'affirmer un peu plus. Et c'est vrai que il y a une inversion de la culpabilité, en fait, même si mes parents sont très aimants, que. Enfin, il y a ça vraiment ancré très profondément. Cette inversion, en fait, de se dire de craindre un peu les conséquences qu'il peut y avoir pour certaines personnes de ma famille que je vais mettre en cause, ou de comme si en fait ce qui était grave aussi, c'était d'accuser quelqu'un de sa famille, parce qu'en fait c'est vrai que ça ne se fait pas, en quelque sorte, dans la
dans l'ordre des choses.
Oui, voilà, c'est ça.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Bah, beaucoup mieux qu'avant, de mieux en mieux chaque jour. Après, je ne vous cache pas qu'il y a encore des moments disons, où j'ai des émotions qui sortent de manière assez forte. J'ai eu longtemps des problèmes de peau, d'eczéma, beaucoup de douleurs fantômes un peu comme ça qui tendent à disparaître. Alors, pareil, à coup d'effort, en fait, vraiment de... J'ai tout testé, je crois, acupuncture, hypnothérapie. Enfin, vraiment, d'ailleurs, je commence à écrire un livre pour un peu retracer ce parcours et vraiment transmettre à mon tour ce que je peux transmettre, parce que c'est vrai que je suis passée par beaucoup de choses. Et en fait, je pense que, enfin, pour moi, en tout cas, la guérison, elle est vraiment active. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a été un déclic pour moi, c'est de me dire... Parce que pendant longtemps, j'étais dans le déni, en fait, le déni de ma dépression, le déni de ce mal-être, etc. Et en fait, parce que quelque part, au fond de moi, j'acceptais pas de me dire « il va falloir que je répare quelque chose que je n'ai pas cassé, en fait. Ce n'est pas moi qui ai fait ce crime. »
Bien sûr.
Mais en fait, c'est à moi de me coltiner les séances chez le thérapeute, le sexologue, etc. Enfin, vraiment, en fait, j'étais dans une... grande colère et j'avais un sentiment d'injustice terrible, et donc quelque part ça bloquait ma guérison parce que je me disais mais c'est quand même pas à moi de payer, non seulement de payer de mon argent, de donner de mon temps à ça, alors que j'aimerais juste mener ma vie, faire mes projets, et puis c'est tout, quoi. Et en fait, bah, il a fallu dépasser ça, en fait, me dire oui, c'est terriblement injuste, oui c'est, ça n'est pas normal, mais en fait, si tu veux t'en sortir, il ne va pas falloir compter seulement sur les autres, sur une potentielle justice qui arrivera ou pas. Il va vraiment falloir...
compter sur toi.
Décider. Ouais, c'est ça.
Compter sur toi, uniquement sur toi. C'est ce que vous avez l'air d'avoir mis en route. Et ça, c'est très bien, parce que comme vous l'avez saisi, cet homme est parti, il est mort et il a,
ouais.
il a embarqué avec lui tout, hein, tout, j'allais dire toute sa, mais vous voyez ce que je veux dire,
ouais.
Tout ce qu'il avait de mal en lui, et il faut essayer de voir comme ça les choses, que
oui.
le mal est mort avec lui, et que vous, vous avez la vie devant vous, et tout un tas de belles choses à réaliser, et que tout ça ne lui appartenait qu'à lui, et non à vous.
Oui.
Et que vous n'étiez qu'une
C'est
petite
ça.
Fille de 4 ans, sans défense,
ouais.
et que dans tout ça, de toute façon, vous ne pouviez rien faire. Donc, il va vraiment falloir bien assimiler que vous n'êtes qu'une petite victime et que
oui.
Vous ne pouviez rien faire pour vous défendre et qu'il a embarqué peut-être son poison, sa culpabilité. J'espère qu'elle l'a bien empoisonné jusqu'au bout, en tout cas. J'espère.
Merci en tout cas. Mais si je peux me permettre une dernière chose, j'aimerais
Allez-y,
vraiment, justement, parce qu'aujourd'hui, j'ai enfin... retrouver une partie de mes forces et j'ai aujourd'hui les mots pour dire tout ça et en fait je suis artiste, j'écris, je chante et si vous le permettez j'aimerais bien dire un texte.
Alors vous savez quoi, on va laisser passer l'info sur Europe,
oui.
vous restez en ligne avec moi et puis on se retrouve tout de suite après pour que vous me lisiez ce texte, d'accord?
D'accord.
À tout de suite. 23 heures passées de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7-39-21, suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Pour l'instant, nous sommes avec Maëvan, qui témoigne depuis le début de cette émission, sur ce qu'elle a subi lorsqu'elle était enfant, à 4 ans, un viol par son grand-père, qui est depuis décédé. Et nous avons évoqué donc... j'ai un trou sur l'oubli, aidez-moi.
L'amnésie traumatique,
oui. Excusez-moi. En ce moment, je suis un peu fatigué, j'ai des trous de mémoire comme ça subitement, pardonnez-moi.
Oui.
Alors, et vous me disiez, Maëvan, que vous étiez artiste et que vous écriviez. Alors, vous vouliez nous lire un texte et on vous écoute.
Oui, merci. Claude, je t'écris cette ode. Je ne suis pas maraude. Je suis pas un petit solar et c'est peut-être un peu tard. Mais Claude, là aussi tu rôdes. Toujours comme un Claude. Je n'ai plus peur du noir. Je retrouve l'espoir. Je les aimais tellement. Tes genoux de Manon. Aujourd'hui, je comprends ce que t'as fait il y a 20 ans. J'avais la varicelle. Tu as tiré sur la ficelle pour mieux gratter de boutons, pressé sur le champignon. Claude, j'avais 4 ans. Pas encore toutes mes dents. Est-ce en réalisant que t'es mort subitement? C'était mon papy, tu m'as couché dans le lit où t'avais pas pris de gants des années auparavant. Claude, c'est tellement banal, je n'en fais pas le Graal, mais je ne les ravale, les fissures anales. Claude, je l'ai toujours su, c'est pas passé, t'as vu, quand je passais devant ta photo, je me disais, parti trop tôt. Pile au moment, c'est drôle, où t'as commis le forfait, t'as échangé les rôles, c'est un bisou à papy. Renouvelé sur ton lit de mort, c'est un peu petit, la tombe dévale l'escalier où tu t'es dérobé. Me laissant le secret, pour de longues années, de tout ce que t'as sucé. Que t'as vampirisé. Claude, Claude, les poupées que je voyais se lever, c'est celles que t'as volées à mon enfance brisée. Claude, avant qu'une s'érode, cette mémoire traumatique qui s'élève chromatique, Claude, je veux que tu saches que derrière ta moustache, je t'ai reconnu, salace. Et c'est de guerre lasse que Claude, je te rends ta place. De papy plein d'audace qui a touché sa race, de papy plein de crasse, je m'arrête devant la glace. Je me regarde, je fais face, je vois une femme qui passe. Si belle et tellement classe, et le feu sous la glace. Je ne sais comment elle a poussé. Avec ses tuteurs dévoyés, je me dis, quelle destinée, quelle force, quel joli nez. Je me regarde, je m'embrasse, je m'applaudis et je me place au centre de ma vie. On me l'a ravi, je suis ravie de pouvoir prendre place. De nouveau, je fais face, un joli volte-face. Et j'aime la vie, je suis en vie malgré les années crasses. Je suis devenue bombasse, fini les années chastes. À moi, les années fastes. Je te regarde, je t'embrasse, je t'applaudis et je te place. À côté, dans le lit, je t'ai choisi. Je suis ravie.
Écoutez, c'est magnifique. Magnifique.
Merci.
Vous écrivez très bien, Maëvan.
Merci beaucoup.
Et vous n'hésiterez pas à nous dire quand vous produirez quelque chose, puisque vous m'avez dit que vous étiez artiste, donc vous chantez aussi, hein, c'est ça?
Oui, je sors mon premier EP là, le mois prochain. Il y a déjà des titres qui sont disponibles sur Spotify et ailleurs.
Et sous quel nom?
Maëvan Musique avec un C à la fin sur Instagram. Et puis voilà, j'ai gardé mon nom parce que justement, enfin mon prénom parce que bah, j'ai pas voulu de nom d'artiste parce que je me suis tellement cachée pendant des années, etc., que c'était important pour moi de quelque part de retrouver mon identité en gardant ce prénom qui est le mien. Voilà.
Eh ben écoutez, très bien, très bien. Je vous souhaite plein de réussite, bien évidemment.
Merci
et puis
beaucoup.
N'hésitez pas à nous communiquer quand vous sortez quelque chose. On le mettra de toute façon, Florian, on le mettra sur notre groupe de parole Facebook. On parlera de vos sorties. Voilà.
Merci infiniment pour votre écoute et votre bienveillance.
Je vous en prie, Maëvan. Portez-vous bien et passez une bonne nuit.
Merci, vous aussi.
Au revoir.
Merci, bonne nuit. Au revoir.